Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et de Marine et nous allons vous parler de photos. En quoi est-ce que c'est important pour les réseaux sociaux et comment s'y prendre pour faire de belles photos? Un dernier mot, si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode du Pod. Alors aujourd'hui nous allons parler de photos et plus précisément de celles que nous utilisons pour alimenter nos comptes sur les réseaux sociaux. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Gwen.
Mais également avec notre invitée du jour, Marine, qui connaît bien ce sujet car elle a une double expertise, celle de community manager et de photographe. Je vais donc te laisser te présenter Marine, c'est à toi.
Bonjour, donc je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, j'habite à Nantes depuis maintenant 13 ans et je suis community manager et photographe depuis 3 ans et j'ai commencé en tant que blogueuse principalement, ce qui m'a dirigée vers ces métiers aujourd'hui.
Très bien, merci à toi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet aujourd'hui? Donc pour nous, c'est un sujet qui est très important dans notre métier. La question de la qualité des photos que l'on partage sur les réseaux sociaux fait partie de notre quotidien. Et combien de fois est-ce qu'on a pu se dire sur une semaine, quand on recevait des photos par nos clients destinés aux réseaux sociaux, « Oh là là, c'est vraiment pas l'idéal, cette photo !» Beaucoup de personnes ne voient pas la différence entre une belle photo que l'on pourra réutiliser sur les réseaux sociaux, et une qui n'est pas du tout adaptée. Et beaucoup également ne comprennent pas l'impact que cela aura sur leur image de marque. Alors aujourd'hui, on est là pour comprendre ensemble en quoi cela est vraiment important et comment s'y prendre pour faire de belles photos. Donc comme d'habitude, on vous explique tout en toute simplicité, avec des conseils et des astuces. Du coup, dans l'introduction, je parlais de faire des belles photos, mais en vrai, c'est un peu subjectif, faire des belles photos. Alors Marine, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les critères, selon toi, qui caractérisent une bonne photo?
Alors une bonne photo, comme tu l'expliques, c'est assez subjectif. Il y a la bonne photo, la belle photo dans le sens artistique, qui va être une photo qu'on va prendre plaisir à regarder, à afficher dans son salon, par exemple. Et il va y avoir la bonne photo en tant que marque. Et cette photo-là, pour les réseaux sociaux, tout du moins, il faut qu'elle soit à la fois belle et à la fois qu'elle montre bien le produit. Et c'est là toute la difficulté du contenu de marque et de la prise de photo pour les marques, c'est qu'il faut qu'une photo soit belle, mais aussi qu'elle représente au mieux le produit, parce que le but, c'est quand même de vendre au bout du compte, même si l'image sur les réseaux sociaux est très importante. Le but, in fine, c'est forcément de vendre et de promouvoir sa marque, son entreprise. Donc une belle photo, pour moi, voilà, en tant que marque, c'est une photo qui va mettre en avant le produit dans un cadre, alors soit le côté lifestyle, c'est-à-dire où on va mettre en avant la photo dans une scène de vie, un petit peu comme on voit beaucoup sur Instagram pour beaucoup de marques. Ça va être une, par exemple, si on a une marque de bougie, admettons, je prends un exemple assez simple, on va mettre la bougie sur une belle cheminée avec un beau tableau derrière, et ça, c'est une photo lifestyle. On va la prendre, voilà, dans son milieu naturel pour la mettre en valeur et faire imaginer le produit chez soi. Il va aussi y avoir la photo ce qu'on appelle pack shot. La photo pack shot, c'est la photo produit type sur fond blanc, fond très neutre, qui va là vraiment bien montrer le produit. Aujourd'hui, avec Instagram, on a la photo pack shot qui a un petit regain d'intérêt, mais dans le sens où on va faire un mix lifestyle pack shot. On va essayer de faire un beau pack shot, mais avec, par exemple, une jolie fleur en fond, une belle ombre, une belle lumière. Donc voilà, tout ça rentre en compte aujourd'hui quand on crée du contenu et qu'on veut représenter sa marque sur les réseaux sociaux. Une belle photo, elle peut être vraiment... c'est très varié et c'est très subjectif, mais il y a quand même des petits critères, on va dire, pour avoir une bonne photo. Et c'est avant tout, est-ce qu'elle montre votre produit correctement? Pour moi, c'est le critère principal.
Et ce que tu veux dire par là, c'est que prendre une photo juste du produit posé sur une table pour dire, voilà, on a tel produit dans notre magasin, ça... c'est pas ça fonctionne
oui,
pas.
Oui, c'est pas idéal. C'est vrai que après tout dépend du métier. Quand on a par exemple une boutique ou un restaurant à mettre en valeur, et ben il y a des moments où on va avoir des photos qui vont devoir être assez simples, qui vont montrer l'intérieur du restaurant. C'est pas forcément une photo hyper belle, hyper qualitative, mais il y a un moment où il faut montrer certaines choses aussi. Et c'est là où est la difficulté, c'est que la création de contenu pour les réseaux sociaux, il faut qu'elle s'articule autour de plusieurs axes. Il faut un mix de tout, en fait. Il faut un mix de photos où on voit très bien le produit, un mix de photos mises en valeur dans le quotidien pour que les gens puissent s'imaginer avec votre produit. Et il y a un mix d'entre deux où il faut essayer de faire du beau, mais aussi de réussir à parler du quotidien de l'entreprise et de la marque. Et des fois, ça passe aussi par des photos qui sont un peu moins esthétiques. Mais qui sont importantes quand même.
Et quand on a, tu parlais des restaurants, mais on peut imaginer des salles de conférence, etc. Est-ce qu'il faut absolument que sur la photo, il y ait des personnes, de la vie, ou est-ce qu'on peut se permettre de prendre une salle vide ?
Alors aujourd'hui, le lifestyle, ça marche mieux. Et le lifestyle, il y a des personnes, il y a des bras sur les photos, il y a des bouts de tête, ça peut être très varié en fait. On n'a pas besoin de voir... une personne face à nous sur la photo, mais c'est vrai que c'est mieux surtout quand on parle d'un lieu de vie comme un restaurant, une salle de conférence, c'est mieux quand il y a des personnes parce que ça représente au mieux en fait l'endroit, on se rend compte de ce qu'on peut y faire. Une salle de conférence vide, on va se dire mais combien de personnes peuvent tenir là-dedans en fait, on se rend pas compte du tout. Une salle où on voit une centaine de personnes dedans et on peut se rendre compte qu'il y a une centaine de personnes dedans, on va tout de suite se dire ouais, ça, c'est bon. Moi, je peux organiser ma conférence ici. On se rend compte de la vie qu'il peut y avoir à l'intérieur.
Et on se projette, quoi.
Exactement. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. La photo de création de contenu pour les réseaux sociaux, c'est vraiment réussir à se projeter. Que ça soit la bougie sur la cheminée dans le salon ou une salle de conférence, pour le coup, il faut qu'on arrive à se faire dire au client que ce produit ou cet endroit, il est pour lui parce qu'il s'imagine en fait très bien dans cette situation-là.
Ok. Et alors, du coup, c'est quoi l'utilité pour une entreprise de faire attention à toutes ces petites choses ?
Aujourd'hui, on est sur des réseaux sociaux d'images, principalement. Facebook a un peu perdu le pli, le côté très informationnel, où on met beaucoup de liens, ce genre de choses. Aujourd'hui, Instagram a pris le dessus avec les photos. On voit TikTok, YouTube, avec les vidéos, ça fonctionne très bien. Et c'est des formats qui fonctionnent énormément, la vidéo. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir du contenu intéressant et pas juste des choses à dire. Souvent, les marques ont beaucoup de choses à dire pour vendre leur marque, leur entreprise. Mais elles ne savent pas comment les dire parce qu'elles n'ont pas de support. Et c'est là où l'image rentre en compte et permet de représenter au mieux cette image de marque avec des images, tout simplement, parce que juste un texte, une philosophie, un état d'esprit suffit pas aujourd'hui quand on est une marque. Il faut une image impactante et il y a beaucoup de marques qui ont joué là-dessus, clairement, qui ont pas forcément des choses à dire, même parfois derrière, mais qui ont des belles images qui parlent pour elles. Je sais pas si je peux mentionner des marques. Je pense à des marques comme Cézanne qui ont des lookbooks et des shootings photos qui sont particulièrement réussis, où on voit parfois même pas la vraie couleur du vêtement, mais qui cartonnent, et ils ont réussi vraiment à construire cette image de marque autour de ces visuels, jusqu'au point où moi, quand je fais un shooting mode, la plupart des photos d'inspiration, c'est des photos Cézanne. On fait forcément en fonction de ça parce que c'est des choses qui marchent, des choses qui sont belles et qui représentent en plus une belle image de marque. Et ça marche très bien.
Du coup, ce qu'on retient là-dedans, c'est que finalement, faire des belles photos, c'est pas uniquement le produit, c'est aussi beaucoup lié à ce que veut raconter la marque sur les réseaux. Et finalement, l'image, elle agit aussi comme une preuve. C'est-à-dire que si demain on travaille pour une entreprise qui valorise le Made in France, par l'image, on va essayer de valoriser cet aspect Made in France, par exemple en prenant des photos dans des lieux bien connus, avec des références symboliques et culturelles, etc. Enfin, tout ça, c'est extrêmement important finalement dans la construction.
Exactement, ça a vraiment valorisé l'image de la marque. Et par exemple, je reprends l'exemple de Cézanne, mais ils vont prendre des photos dans un appartement type haussmannien. Tout de suite, on se projette à Paris. Et c'est ça aussi qui a fait qu'ils ont réussi à s'exporter. C'est que Cézanne, maintenant, c'est l'image de la parisienne, en partie grâce à leurs photos, pour le coup.
Donc tout le contexte autour de la photo va compter aussi dans l'image de la marque.
Exactement.
Alors moi j'ai quand même envie de rebondir sur un aspect, tu parles beaucoup d'Instagram, c'est vrai aujourd'hui c'est quand même, c'est principalement Instagram qui a fait prendre conscience aux marques de l'importance de l'image, mais finalement est-ce que les images qu'on va utiliser pour Instagram on peut les réutiliser d'une autre manière sur d'autres réseaux, est-ce que finalement ça n'a pas un lien?
Oui, pour le coup c'est vrai que Facebook, même si ça a été laissé beaucoup de côté, aujourd'hui, on en vient à avoir un petit regain d'intérêt quand même parce qu'on a du contenu qui est créé pour Instagram, donc pourquoi ne pas l'utiliser sur autre chose en fait. Et du coup, ce contenu-là sert aussi pour Facebook. Ça permet de faire des albums un peu plus sympas, de continuer à communiquer sur Facebook sans pour autant avoir besoin de créer du contenu exprès pour Facebook. Qu'en général, au final, on me demande principalement des photos pensées pour Instagram, mais qui vont aussi aller sur les sites internet et Facebook. Parce que les sites internet aujourd'hui jouent aussi beaucoup sur l'image. On a aujourd'hui des pages d'accueil avec une photo en plein écran où on voit juste le petit logo de la marque en haut et on n'a même plus forcément beaucoup de texte. Et aujourd'hui, oui, ça, c'est principalement pensé dans cet axe-là. Mais on a la problématique où aujourd'hui, quand je prends en photo des photos pour une marque, il faut qu'on pense absolument au site internet derrière. Et c'est plus la priorité en fait. Aujourd'hui, on est passé vraiment où la plupart des photos sont prises en format portrait, par exemple, chose qu'on ne faisait pas forcément avant. On prenait beaucoup de photos en paysage. YouTube, c'était un format paysage. Quand on prenait des photos, voilà, on avait l'habitude de nos appareils photos, nos petits appareils photos numériques compacts, où on prenait toujours en format paysage, on prenait très peu de portraits. Et aujourd'hui, Instagram a changé ça, c'est-à-dire que le format vertical est beaucoup plus impactant, format portrait. Et maintenant, on est obligé de penser à se forcer à prendre des photos en format paysage pour penser aux bannières sur les sites internet, pour penser aux présentations sur les sites internet, parce que le vertical, c'est pas vraiment pensé et optimisé pour les sites internet, mais il faut en faire. Donc voilà, les jours de shooting, en général, on se dit, cette photo-là, je la veux pour mon site internet, donc on y pense au format paysage. Et voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser en amont quand on prépare un shooting pour du contenu de marque. En général, on a un brief en amont et on se dit, voilà, cette photo-là, moi, j'imagine focaliser soit sur le produit ou bien un peu large parce que justement on veut une image plus type ambiance, on n'a pas besoin d'un gros plan du produit, ou au contraire on a besoin d'une bannière absolument pour site internet, donc il me faut ce format là.
Faut penser dès le début au contexte d'utilisation, au contexte d'usage, enfin, la façon dont la photo sera utilisée. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que avant on prenait des photos pour le site web et puis si jamais elles étaient bien on les mettait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on prend d'abord des photos pour les réseaux sociaux et si elles sont exploitables on va les utiliser sur le site web. Ça a renversé un petit peu la dynamique, c'est ça qui est intéressant.
Carrément. Oui, c'est vraiment plus le même type de métier aujourd'hui, photographe. Enfin, moi, je suis devenue photographe avec l'essor des réseaux sociaux. Je n'étais pas photographe avant la création de contenu. Donc, je n'ai pas forcément vu l'évolution, mais j'ai vu mon métier, pour le coup, n'existait pas vraiment avant ce métier de photographe lifestyle. C'est vraiment devenu un métier à part entière. Avant, on était soit photographe, soit on était photographe pour des marques en mode shooting mode ou ce genre de choses-là. Mais il n'y avait pas tant de photographes pour raconter une histoire autour d'une marque. C'était vraiment des shootings très, très précis, en fait. Aujourd'hui, les shootings sont plus larges. Ils servent à plus de choses.
Mais on le voit avec d'autres clients qui travaillent avec des photographes, alors sans que ce soit péjoratif, mais plus traditionnels. Et parfois, les photos sont très jolies, mais nous, on a du mal à les exploiter pour les réseaux sociaux parce qu'elles sont pas pensées pour les réseaux sociaux. Totalement. Par contre, la photo, elle s'intègre bien dans un magazine, dans quelque chose qui est imprimé, dans un catalogue. Mais pour les réseaux, ça passe pas. Et souvent, on a la remarque, on dit, c'est dommage, travailler avec un photographe ou une photographe, la photo est super, mais pour les réseaux sociaux, ça colle pas, ça rentre pas dans le feed, c'est pas ce qu'on veut raconter, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a finalement deux approches de la photo
aujourd'hui. Le métier a beaucoup évolué et c'est vrai que c'est super intéressant aujourd'hui de se dire... Enfin, moi, je ne pensais pas devenir photographe un jour. Mon métier, à la base, c'était la com. Et petit à petit, mon métier a évolué. En fait, de community manager, je suis passée à de la création de contenu, aussi grâce au blog, qui fait que voilà, j'ai dû mettre en avant des marques à un moment. Et voilà, ce métier de community manager a évolué. Aujourd'hui, ceux qui ont évolué vers ce côté création de contenu sont des photographes à part entière. Et moi, du coup, maintenant, c'est mon activité principale. Aujourd'hui, mon statut, c'est photographe. Et créatrice de contenu et community manager derrière. Donc ça s'est un peu inversé au final. Moi j'ai pris le côté créatif de la com Mais j'adore encore la com de base avec les chiffres, les pubs Facebook et tout ça. Je gère encore ça. Mais j'avoue, je prends plus de plaisir sur la créa de contenu aujourd'hui. Mais en effet, oui, tout ce milieu a totalement évolué, que ce soit la photo ou la com. Enfin, oui, il y a encore 10 ans, quand j'ai commencé mes études, et dans notre école, il s'est posé la question d'ouvrir une filière web. Elle a failli ne pas ouvrir. Et je me dis, c'était il y a seulement 12 ans, en fait, où on a failli ne pas ouvrir cette filière web parce qu'on n'était pas assez à vouloir le faire. Et aujourd'hui, c'est la base de la com. Et voilà, tout ça évolue super vite.
Alors, moi, je voulais poser une question, parce que tout à l'heure, tu prenais l'exemple des bougies, de Cézanne. Est-ce que le côté de faire attention à avoir de belles photos, ça vaut pour tous les secteurs d'activité, même les moins sexy, comme je sais pas... J'ai aucun problème avec ces secteurs d'activité. Un exemple.
On attend l'exemple.
J'allais dire la banque ou l'assurance.
Ouais, avec des images un peu... Peut-être un peu plus austères, qui ne sont pas forcément vraies, mais un peu plus...
Oui, c'est ça.
Oui et non. Je pense qu'il y a des milieux où ça reste encore un peu tendu. Genre la banque, c'est quand même compliqué de montrer des gens qui sont en train de rigoler ou des gens en train de... Enfin, c'est ce qui est fait aujourd'hui. On voit des gens en train de voyager, on voit des gens contents de faire leurs études et de faire un prêt pour leurs études. Enfin, je trouve que ça reste encore compliqué. On reste plus, je trouve, dans de la photo un peu banque d'images encore. Je pense que ça va aussi avec le cœur de métier, comme les assurances ou ce genre de choses qui ont du mal à créer une histoire autour de leur métier. Et c'est normal, c'est super compliqué. Surtout aujourd'hui, les banques. Les gens n'arrivent pas à faire des prêts, donc ils ne sont pas très contents des banques en général. Donc c'est compliqué. Je pense que c'est plus simple quand on a un secteur d'activité qui est apprécié, pour le coup, et qui peut raconter une histoire facilement. Mais pour le coup, il y a des domaines où on ne s'y attend pas forcément, mais où la création de contenu est importante. Moi, je vois mon mari est artisan peintre. Et pour le coup, leur vraie valeur ajoutée, et c'est comme ça qu'ils ont construit leur image de qualité de service, c'est que sur leurs réseaux sociaux, ils font attention à la qualité de leurs photos. Moi, je les aide parfois, mais mon mari a un peu pris le pli là-dessus. Il sait comment faire maintenant pour mettre en avant mieux son entreprise. Et c'est super important parce qu'il y a beaucoup de clients qui les repèrent sur les réseaux sociaux maintenant grâce à ça. Et il y en a qui leur disent « Ah ouais, mais vos photos, elles sont super quali, et je trouve qu'on voit bien votre travail, on voit que c'est de la qualité. » Et du coup, en fait, ça donne envie. Plutôt que de voir un peintre, je ne veux pas dénigrer les peintres qui font ça, mais voilà, qui ont peut-être leur blanc de travail un peu taché sur les photos ou ce genre de choses. Toujours penser en amont à la tenue qu'ils vont avoir, peut-être changer de blanc de travail pour en prendre un propre pour les photos, le truc tout bête. Mais c'est des choses qui vont contribuer à l'image de qualité. Et surtout quand on veut travailler dans un secteur un peu qualitatif, maintenant ils sont un peu tournés vers le haut de gamme, le conseil. Et du coup, ça a joué. Leur image de marque a joué et les clients les ont contactés et ont fabriqué en partie l'image de marque pour eux, en fait. Donc c'est un peu un cercle vertueux, c'est que tout dépend dans quel secteur on évolue, mais pour le coup, je pense que c'est vertueux pour n'importe quel métier. De faire attention à son image et ouais, je pense que tout le monde peut prendre en compte ce petit critère pour améliorer son image.
Mais c'est vrai que pour en venir à l'artisanat, même dans le bâtiment en général, les artisans sont les premiers à prendre des photos de leur réalisation et ils ont raison parce qu'il y en a qui travaillent vraiment super bien. Mais alors par contre, les photos qu'ils prennent, c'est j'ai un téléphone, hop, je sors, je prends la photo, il y a la lumière en face, c'est mal cadré, on voit encore Michel avec ses taches un peu partout. C'est dommage, parce que la réalisation, elle est de qualité, mais la photo n'apporte pas cette preuve. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut poser problème. Pour revenir juste à la question des banques et des assurances, aujourd'hui, on voit quand même émerger des problématiques sur la marque employeur, où ces secteurs-là ont besoin d'attirer les talents, etc. Et où la photo, elle devient importante parce qu'ils ont compris que les banques d'images, ça humanisait pas du tout l'entreprise. Comment on fait dans ces cas-là, quand on est face à des entreprises qui ont besoin de contenu, qui vont raconter la vie des collaborateurs, est-ce qu'on peut quand même arriver à faire ce que...
Oui, pour le coup, je pense que mettre en avant son côté... business to business, par contre, est possible pour des secteurs comme celui-ci. Je pense qu'en B2C, je pense que c'est plus compliqué pour le coup, parce que voilà, un secteur comme la banque, en B2C, il va falloir parler à son client, et je trouve que c'est compliqué de faire du storytelling autour. Par contre, on peut mettre en avant le côté un peu plus B2B, et son côté un peu business. Je pense qu'on peut valoriser en effet son image avec un côté un peu plus corporate, justement, en mettant en avant un peu plus ses collaborateurs, la qualité de vie. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises font d'ailleurs. Quand elles n'ont pas grand-chose à dire sur leurs produits sur les réseaux sociaux, en général, elles parlent de leur entreprise, de leur politique RSE, par exemple, environnementale. Et pour le coup, ça, c'est possible de mettre en avant. Via des banques d'images, en effet, c'est de plus en plus mal vu. Même s'il y en a de plus en plus qualitatifs quand même, on n'est plus sur la banque d'images de base avec des sur choses qui viennent des mêmes. Ouais, voilà. mais pour le coup, oui, on peut organiser de la création de contenu autour de cet esprit-là, en prenant en photo les collaborateurs, des jolis portraits, aller à la rencontre aussi de leurs partenaires, pourquoi pas. Je pense même, par exemple, à des agriculteurs, par exemple, qui ont, par exemple, des vergers de pommes. On ne va pas montrer des pommes éternellement en photo sur leur compte, mais par contre, on peut aller dans les vergers, prendre en photo au printemps quand c'est fleuri, l'été quand il y a les fruits, prendre l'agriculteur avec une pomme dans la main, ça va tout de suite humaniser un peu la chose. Et oui, pour le coup, c'est possible de ne pas parler que de son produit, mais de parler de sa marque et de sa façon de fonctionner au quotidien, oui, totalement.
Maintenant qu'on a compris tout l'intérêt, pour une entreprise qui a envie de passer à avoir de belles photos, à pouvoir créer de belles photos pour ses réseaux sociaux, c'est quoi un peu le process à suivre, le bon déroulé, quoi, en fait, par où je commence
Alors, tout dépend du budget. Évidemment, on va partir de là, parce que la création de contenu, ça peut coûter cher, mais ça peut aussi être fait plus simplement sur les moyens. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a la solution la moins chère, on va dire. Quelqu'un de l'entreprise a un bon téléphone, on va dire, le dernier iPhone. Ça prend aussi bien des portraits, il y a une belle lumière. Moi, je sais que j'ai changé de téléphone parce que le mien commençait à trop dater et j'arrivais plus à faire de stories sur mon compte Instagram sans me dire « la qualité, elle est horrible ». Donc je pense que c'est important déjà d'avoir un bon téléphone quand on ne pense pas investir dans un appareil photo dédié. On prend le dernier téléphone, il n'y a pas besoin de tous en avoir un au sein de l'entreprise, mais au moins un. Ensuite, on télécharge potentiellement la bonne application pour retoucher ses photos. L'outil interne des téléphones n'est pas forcément fait pour avoir de la photo Instagram. Donc on télécharge une bonne application type VSCO. Qui va permettre d'avoir des petits filtres intégrés un peu sympas. Il y a plein d'applications du genre, hein, pour le coup, c'est assez facile à trouver. Mais VSCO, je trouve que c'est la plus qualitative et celle qui a aidé beaucoup de blogueurs, notamment, à se lancer dans de la photo un peu qualitative, parce qu'elle apprend aussi à retoucher les photos, à mettre en valeur, à travailler la luminosité d'une photo, le contraste, la bonne colorimétrie. Donc je trouve que c'est une application qui est très bien faite et que moi je recommande souvent à mes clients.
Et elle est gratuite, cette application ?
Alors elle est gratuite. Elle est payante à partir du moment où on passe à la retouche de vidéos, parce qu'en fait on peut aussi retoucher des vidéos avec. Et c'est à ce moment-là où elle devient payante. Mais pour le coup, la version gratuite suffit amplement pour la plupart des cas. Et après, vous pouvez acheter des filtres supplémentaires aussi. L'avantage, c'est que quand vous vous abonnez, vous avez tous les filtres, toutes les méthodes de retouche. Enfin voilà, c'est plus pratique. Après, il faut apprendre à prendre des photos. Ça, c'est pas forcément inné. Il y a des formations aussi qui existent si besoin. Moi, je me suis beaucoup formée à la photo sur YouTube. Pour le coup, YouTube, on tape ce qu'on veut faire. Par exemple, comment améliorer la luminosité d'une photo. YouTube va forcément nous sortir une vidéo qui convient pour ça. Ça sera peut-être pas forcément la première vidéo qui sera la bonne, mais voilà, moi je trouve ça très formateur, YouTube. On n'a vraiment pas besoin de dépenser tout de suite de l'argent pour se former. Il y a des bonnes bases. Et donc les conseils, c'est de bien travailler la luminosité de sa photo, qu'elle soit pas sous-exposée, donc trop sombre, voilà. Pas surexposée non plus, parce que c'est pas très beau à regarder sur les réseaux sociaux une photo surexposée. Donc ça, voilà, ça va être la base. Un bon téléphone, une bonne application de retouche et quelques bases, genre savoir bien cadrer, une bonne luminosité. On peut aussi acheter potentiellement une petite lampe LED qui va permettre d'ajuster en fait la température ambiante. On appelle ça la température, ça va être la chaleur ou au contraire la froideur de la photo. Donc par exemple, une photo prise un jour comme aujourd'hui où il fait beau, elle va être assez chaleureuse en général, parce que voilà, la lumière est assez diffuse, constante, il n'y a pas de lumière très vive ou des nuages trop gris, donc la lumière n'est pas bleue. Donc voilà, cette petite lumière d'appoint en fait, va vous permettre, quand vous n'avez pas une luminosité optimale, d'ajuster un peu la luminosité de l'objet que vous allez prendre en photo. Donc il ne faut pas coller la lampe au produit, en général c'est une lampe qu'on met un petit peu en retrait par rapport à sa photo, et qui va venir éclairer un peu la zone où on va prendre la photo. Donc ça, c'est la solution la plus abordable. Voilà, téléphone, bonne appli, et petite lampe d'appoint. Ensuite, on va avoir la solution où on a quelqu'un en interne qui sait faire ça, ou une agence avec laquelle on travaille qui a quelqu'un qui fait de la création de contenu. Là, pour le coup, bon, c'est la solution la plus simple parce que vous sous-traitez pour le coup, donc quelqu'un va le faire pour vous. Et il y a la solution où vous pouvez investir vous-même dans du vrai matériel de création de contenu. Donc là, on parle des grosses entreprises qui peuvent se permettre de le faire. Donc là, on achète un bon appareil photo. Encore une fois, l'appareil photo ne fait pas la photo. L'appareil photo va être un bon outil. Évidemment, un appareil photo récent va être plus simple à utiliser, plus de technologie. On va pouvoir prendre des photos beaucoup plus, j'allais dire pixelisées, mais plus grandes. Elles ont plus de pixels, donc on va pouvoir les afficher en grand, par exemple. Donc voilà, ces appareils photo-là, ça a un coût. Donc en effet, ça demande de l'investissement. Il faut une personne qui sache s'en servir. Donc à voir si en interne, vous avez quelqu'un qui soit sait déjà le faire, ce qui est parfois le cas parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui font de la photo en amateur. Soit on peut former la personne qui va du coup un petit peu, pas changer de métier, mais qui au sein voilà, de l'entreprise va s'occuper de cette tâche-là. Et à ce moment-là, du coup, voilà, là c'est quand même un coût d'investissement, de formation. Mais pour le coup, ça peut être utile. Mais je pense que la sous-traitance est plus simple à gérer quand même, parce qu'on a des personnes qui ne font que ça toute la journée. Moi, pour le coup, c'est mon métier. Quand on me demande, quand on me donne un brief avec en mode, voilà, t'as ce produit-là à prendre en photo de telle façon, on a besoin de ça. Soit, il y a plusieurs façons de travailler avec quelqu'un qui fait ça pour vous. Il va y avoir la façon un peu libre, où pour le coup, on donne... Par exemple, je reprends l'exemple des bougies, hein, parce que ça marche très bien. une bougie Monoeil, une bougie, je sais pas, menthe et une bougie chocolat. Voilà, on lui dit, on te donne ces trois bougies. Tu as tel budget accessoire, tel budget voilà, global. On te laisse le champ libre. On a besoin de 10 photos minimum ou de 50 photos. Du coup, là, la personne donne son tarif en fonction de ça. Et on a le cas où on a un brief très précis. Moi, pour le coup, ça m'arrive de recevoir des besoins photos où il y a un brief très précis. Par exemple, voilà, j'ai besoin de cette bougie-là, prise en photo dans ce cadre-là, avec une personne dessus, une autre personne qui éteint la bougie, une personne qui la tient, par exemple, ou une personne qui offre la bougie à quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a différentes façons de travailler. Ça a un coût, en effet, en fonction de la façon de travailler. Mais voilà. Donc c'est à peu près toutes les options. Mais on peut faire de la création de contenu qualitatif, peu importe son budget. Il suffit de bien faire les choses, de se renseigner et de ne pas le faire à l'arrache. Mmh. C'est surtout ça.
En fait, c'est de savoir ce qu'on veut prendre en photo. C'est comme Exactement. Les journalistes qui vont sur le terrain pour faire des vidéos. Ils savent avant ce qu'ils doivent aller capturer. Ça. Et ils ont préparé en amont. C'est le même principe que les briefs dont tu parlais, quoi. Il ne s'agit pas d'aller sur le terrain en disant « bon, il faut que je prenne des photos, je verrai bien ». Non, il faut vraiment préparer ça en amont et se dire « j'ai besoin de shooter telle et telle chose ». Ça vaut aussi pour les événements d'ailleurs.
Justement, moi j'avais une question par rapport au brief, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le métier, faire un brief, ce n'est pas toujours simple. Alors du coup, c'est quoi un bon brief ?
Un bon brief, quand on n'a pas forcément de connaissances dans le milieu, ça va être déjà « quel produit je veux mettre en avant ?» Quel restaurant, par exemple, si j'ai plusieurs restaurants, ben voilà, je veux prendre ce coin de restaurant. Je veux que, dans l'idée, pour le cas du restaurant, je veux qu'on ressente un peu l'authenticité du restaurant, le côté qualitatif. Voilà, il va y avoir plusieurs points. Il va y avoir quel produit ou quel environnement, quel cadre, quel contexte, quelle image je veux pour mon entreprise. Donc, par exemple, une image soit... par exemple, moi, j'ai une marque de sac à dos, je veux que l'ambiance, ça soit baroudeur. Et il y en a, ça va être, moi, mes sacs à main, non, c'est ambiance luxe. Donc voilà, faut que ça soit comme ça et pas en mode baroudeur avec mon sac à main de luxe, quoi. Donc voilà, faut qu'il y ait aussi une idée précise de ce que la marque représente. Je ne vais pas prendre des photos pour une marque luxe que pour une marque de sac à dos de voyage, par exemple. Donc il faut que moi, en tant que photographe, je puisse cerner la marque facilement, savoir ce qu'elle veut prendre en photo et si elle a des besoins précis ou pas. Encore une fois, besoin précis, soit voilà, je veux que la photo elle soit avec la bougie prise de ce côté-là, avec telle lumière, ou alors au contraire, soit vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez et vous dites juste, je veux que le produit il soit mis en valeur à peu près comme ça, mais on te laisse le champ libre parce que c'est toi qui as les idées. Donc dans ces cas-là, par contre, dans les briefs, il y a des limites. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui a eu la liberté sur une photo de reprendre 3 photos derrière parce qu'au final, ça ne nous convient pas en termes d'ambiance. Ça, c'est parfois le problème. Moi, dans ces cas-là, je mets dans mes contrats en fait, des limites de reshoot. Moi, par exemple, pour un contrat de 10 photos, ça va être 20% de reshoot. Donc, on va avoir le droit de reshooter 2 photos si jamais ça ne correspond pas du tout au brief. Pour le coup, moi, je fais toujours un retour sur mes idées avant de prendre en photo. Donc je leur dis, voilà, ce produit-là, il va être mis en valeur comme ça. La photo, elle va être prise à peu près comme ça. Est-ce que ça vous va ou non? Oui, si on me valide, c'est ça. Parce que ça m'est déjà arrivé avec des clients, on va avoir un retour en mode, ah non, mais c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, en fait. Oui, mais du coup, tu ne m'avais pas dit ce que tu imaginais. Oui. Oui, oui. Donc je peux pas être dans ta tête. Donc le brief sert à ça, en fait. Ça va être à qu'est-ce que le client attend pour qu'aucun des deux ne perde de temps, en fait. Parce que la photo, mine de rien, ça prend énormément de temps. Et parfois, on va organiser une après-midi de shooting et ça va faire perdre énormément de temps de devoir re-shooter une photo parce que ça veut dire qu'il faut tout ressortir, tout réorganiser, tout reprendre pour une seule photo alors que la veille, on a tout sorti mais pour 10 photos. Donc un re-shoot, ça prend du temps aussi bien des deux côtés parce que ça fait faire des retours qui sont inutiles parfois côté client. Et moi, des fois, ça va être mon travail en tant que photographe aussi de dire « mais non, moi, je pense que cette photo, elle correspond ». Et qu'elle correspond à votre marque. Et c'est pas le côté malhonnête, j'ai pas envie de re-shooter ou quoi. Ça va être le côté où j'ai pris cette photo-là comme ça parce que j'estime qu'elle est bonne pour votre marque.
Et c'est le conseil aussi, quoi.
C'est ça. Il y a un côté conseil. Et ça, c'est le côté création de contenu, je pense. On retrouve aussi ça dans le photographe type de mode, en mode, voilà, j'imagine telle position pour mettre en valeur le pantalon, par exemple, ou ce genre de choses-là. Et voilà, ça va être aussi mon travail de recommander de cette façon-là et de faire en sorte que le client ait pas trop de retours à faire et pas à galérer à me faire imaginer son image de marque.
En fait, il faut que tu comprennes bien l'ADN de la marque, ce qu'elle représente. Et donc, il faut que la marque ait fait ce travail-là en amont de qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs ajoutées de mon produit, etc. Sans ça, toi, tu ne pourras pas forcément travailler.
Exactement.
Il risque d'y avoir des problèmes dans l'exécution. Et puis, il faut aussi que la marque réfléchisse à comment ces photos-là vont être utilisées. Enfin, voilà, toi, de savoir que c'est des photos qui vont aller sur Instagram ou juste sur un site web, c'est pas du tout la même approche, quoi. Donc, effectivement, il faut bien aussi comprendre l'usage qui en sera fait derrière.
Totalement.
Donc, ça se prépare. Mais par contre, effectivement, nous, on le vit aussi quand on fait des strates social media, d'avoir un bon brief, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Exactement.
Alors oui, par contre, au démarrage, il faut réfléchir. C'est un petit peu de cerveau, mais ça fera gagner dans la durée du temps à toute l'équipe.
Et je pense qu'il y a autre chose aussi qui est important, je viens de penser à ça, mais ça peut aussi être le choix du prestataire, parce que chaque photographe, même s'il s'adapte, a un peu sa façon de travailler, sa patte, et ça je pense que c'est important aussi en amont, le choix du photographe.
Exactement, et pour le coup, moi je le précise en amont que j'ai une façon de retoucher les photos, et que je peux m'adapter à certaines marques quand il y a besoin, mais que je n'irai pas faire un travail qui ne me correspond pas. C'est aussi ça le travail de photographe création de contenu. Aujourd'hui, moi, je suis artisan photographe et je considère que j'essaye aussi de mettre ma patte dans ce que je fais. Et c'est pas juste faire de la com, il y a aussi un côté un peu artistique derrière, hein, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'en effet, quand on fait appel à moi, je pense que c'est aussi parce qu'on aime mon travail et qu'on veut quelque chose qui ressemble aux photos que j'ai l'habitude de prendre. À côté de ça, moi, je prends aussi des photos pour particuliers, pour des mariages et tout ça. Et quand les gens me contactent, c'est on a aimé ce côté naturel dans tes photos et on veut ça pour notre mariage. On ne veut pas juste des photos de groupe, par exemple. Et je pense que pour les photos de marque, c'est un peu pareil. Il va y avoir ce côté où, bah, moi, j'aime bien la façon dont tu parles des marques, la façon dont tu mets en avant leurs produits, et c'est ça que je veux. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut choisir son créateur de contenu pour sa marque. C'est aussi important que le photographe corresponde à l'image de marque, parce que contacter quelqu'un qui représente pas, enfin qui prend pas des photos qui représentent votre marque, je pense que ça sert à rien de le contacter. C'est pas parce qu'il prend des photos qu'il va pouvoir prendre des bonnes photos de votre marque. Mais je pense que le taf se fait aussi du côté du photographe à ce moment-là. Moi, il m'est arrivé de refuser des contrats parce que ça me correspondait pas, et je pense que tous les créateurs de contenu font ça pour le coup. Ouais.
Ça marche. Il y a une question aussi que je voulais aborder, parce que ça, c'est toujours un peu compliqué, on sait jamais trop. C'est la question des droits d'auteur, des droits d'image. Quand on travaille avec un photographe, ou même d'ailleurs quand on achète des photos sur banque payante, du coup sur internet, est-ce que tu aurais des petites infos à nous donner sur ça, justement?
Oui, alors moi, du coup, en tant qu'artisan photographe, j'ai des droits. À l'image sur mes photos, enfin des droits d'auteur plutôt, vu que c'est considéré comme de la photo d'art. C'est pas la même chose que quand on est photographe. Alors, il y a deux types de photographes, je sais plus trop en termes de société. Moi, j'ai choisi le côté artisan, du coup, ça me protège en fait si mes photos sont utilisées sur un endroit où je n'ai pas donné mon accord. Mais moi, par exemple, quand je prends des photos pour des marques, je donne les droits web. Donc ça va être réseaux sociaux, site internet. Tout ce genre de choses-là. Et en fait, les droits de reproduction, donc d'impression, pour les montrer en boutique, pour créer des catalogues, ça, c'est un forfait en plus, en fait. C'est quelque chose qui est à deviser. Alors, ça m'arrive de les mettre gratuitement, hein. C'est juste, il faut qu'il y ait une mise en accord là-dessus, en fait, en amont. C'est pas juste, on a les photos, on les utilise comme on le souhaite. Il faut savoir en amont comment on va les utiliser pour parler aux photographes de... quel droit j'ai sur ces photos-là. Moi, je donne les droits web, donc les photos peuvent être utilisées sans même qu'il y ait mon nom dessus. Mais à partir du moment où on sort de ce contexte-là, par contre, il faut me demander en amont comment ça va être utilisé. Et il y a beaucoup de marques même qui me citent sur les photos alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de le faire, mais juste parce qu'ils apprécient de le faire. Des fois, ils citent toute l'équipe, genre la maquilleuse, la styliste et tout ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir, c'est renseignez-vous bien sur les droits. Une photo sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'elle est sur les réseaux sociaux qu'elle peut être utilisée comme on le souhaite. Il y a beaucoup de personnes, maintenant, on voit passer des marques qui utilisent des photos et mettent source Pinterest. Moi, ça me rend dingue, parce que Pinterest, ce n'est pas une source, c'est un endroit où tu as trouvé la photo, mais la photo de base ne vient pas de Pinterest.
Elle a été prise par un humain.
C'est ça, carrément. Et la source, c'est la personne qui a pris la photo. Et ça, on commence de plus en plus à le perdre, c'est ce côté source de base. Et sur Instagram, on le voit de plus en plus aussi, des gens qui reprennent des belles photos qu'ils ont vues et qui les postent, sans même dire que c'est pas la leur. Et ça, c'est vraiment très limite niveau légalité. Quelqu'un peut vous attaquer.
Bien sûr.
Donc c'est bon à savoir pour le coup. Et ça coûte rien, en fait, de demander au photographe si vous pouvez utiliser sa photo. Moi, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'a contacté en mode... bonjour, j'aimais bien la photo de la fleur que vous avez prise là, elle irait bien dans mon compte Instagram à tel moment, parce que je parle je prends l'exemple de la bougie, encore une fois, je parle de bougie à la lavande, vous avez pris une photo de lavande, j'aimerais bien la poster à ce moment là et là, bah, soit on se met d'accord pour qu'il l'utilise en me mentionnant, en me rémunérant ou pas, voilà, tout ça il faut en parler en fait. C'est mieux que de voler une photo et de se retrouver derrière avec un avocat ou derrière. Donc voilà, vaut mieux en parler.
Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que la photo est sur Internet,
c'est ça.
On a le droit de l'exploiter. Alors,
exactement.
En fait, non, pas du tout.
Ça s'est beaucoup dit. En plus, tout ce que tu mets sur Facebook et sur Instagram est public. Mais non, c'est pas aussi simple que ça.
C'est public à la consultation.
C'est public à la consultation,
c'est ça. Mais pas à l'utilisation.
Exactement.
C'est ça qui est important.
C'est ça.
Puis il y a autre chose aussi, c'est le côté... Il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent à prendre des photos et qui se disent « j'ai pas besoin de demander l'autorisation tant que je crédite la personne ».
Oui.
Et moi, je trouve ça assez borderline.
Oui, c'est limite.
À l'agence, on travaille pas comme ça. Nous, on a toujours pour habitude de demander avant d'utiliser les photos d'une autre personne. Et pourtant, souvent, les personnes me répondent « Ah bah merci, c'est super sympa de me demander. »
Tellement pas l'habitude.
C'est ça, ouais, c'est ça. Et à chaque fois, je dis « Bah non, mais en fait, c'est juste une obligation légale. C'est pas possible de faire autrement. » Et à chaque fois, ça me fait sourire quand je vois des gens qui me répondent ça, quoi.
Et c'est toujours par écrit, quoi, tout le monde. C'est-à-dire, même si on échange à l'oral, il y a toujours une trace écrite.
Oui, il faut toujours qu'il y ait une trace.
Si jamais, à un moment donné, il y a un désaccord ou autre, voilà, au moins, il y a une trace et ça protège tout le monde.
Exactement. Il y a des marques, d'ailleurs, qui font ça. Et là, je trouve ça un peu limite, même. Parfois, il arrive que sous mes photos Instagram, j'ai des marques qui viennent me demander est-ce qu'on peut utiliser votre photo. Alors souvent, c'est des très grosses marques, hein, genre Disney, des marques genre Made.com, où en fait, elles ont un hashtag qu'on utilise en réponse aux commentaires. Par exemple, pour l'exemple de Made, c'était « J'adore la photo du meuble que vous avez pris, est-ce qu'on peut l'utiliser sur notre compte ? Si oui, répondez-nous avec le hashtag sous notre commentaire, yes made, un truc comme ça. » Et en fait, on se rend compte que derrière ce hashtag qu'on utilise en réponse aux commentaires, il y a une cession de droit de la photo.
Ah oui, d'accord.
Et c'est super flou derrière. Alors, je donne l'exemple de Made, mais c'était plus, je sais plus qui c'était. Mais c'est super flou, en fait. Si on regarde pas les conditions, votre photo, elle peut se retrouver demain en vitrine d'une boutique sans votre accord. Enfin, techniquement, avec votre accord. Mais si vous lisez pas les petites lignes, voilà, c'est un peu limite. Donc, ouais, moi, en général, je refuse ce genre de choses-là parce que je sais qu'il y a des conditions parfois bizarres derrière. Après, quand c'est une marque que j'aime bien et où ça peut me faire plaisir, par exemple, de me dire, bah oui, ma photo va être utilisée. Aujourd'hui, en tant que photographe, j'avoue que je trouve ça plus limite parce qu'on est censé être rémunéré pour ça. Il y a des marques pour lesquelles j'accepte, mais en général, avec ce procédé-là, je refuse pour le coup. C'est un peu limite.
En fait, il faut vraiment un accord écrit, explicite.
Oui, c'est ça. Vraiment, toutes les conditions sous les yeux et pas aller voir le lien si vous voulez voir dans quel cadre on va les utiliser. Mais oui,
ça marche. Alors du coup, tu nous as quand même déjà donné pas mal de conseils et astuces simples et du coup un peu plus aboutis pour faire de belles photos. Est-ce que à l'inverse, tu aurais des erreurs à ne pas commettre, à nous partager ?
Par exemple, on est une entreprise, on bosse seul dessus et on est le seul à décider de ce qu'on va poster. En fait, je trouve ça bien d'avoir un avis extérieur. Quand on est une petite entreprise et qu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux, à moins de bien savoir le faire, je trouve ça important de s'entourer, et pas forcément que de professionnels, mais au moins avoir un regard extérieur sur le compte qu'on va créer pour son entreprise, avec un avis, parce que comme on disait, la photo c'est très subjectif, et des fois une photo qui va nous paraître belle, et ben, au final ne le sera pas pour une autre personne, ou même ne représentera rien pour une autre personne, et elle représentera pas votre marque si elle ne plaît pas. Donc ça peut être bien déjà de savoir s'entourer. Ensuite, de croire que le matériel fait la bonne photo. Acheter un appareil photo à 3000 euros ne vous fera pas faire de bonnes photos. Ça aide, mais ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup de personnes... Enfin, ça m'est arrivé, c'est moins fréquent maintenant. Mais j'avais des personnes qui me disaient « Bonjour, quel appareil photo utilises-tu et quel filtre utilises-tu pour tes photos ?» En gros, pour refaire la même chose derrière. Là, il y a de la pédagogie, parce que chez les marques, ça arrive aussi, en mode on aimerait bien faire le même genre de photos et tout ça. On ne peut pas te donner toutes nos photos à faire, donc on aimerait bien faire moitié-moitié et tout ça pour la création de contenu. Donc des fois, je leur donne des pistes, mais c'est une formation photo qu'il faut, c'est pas juste simplement un filtre et un appareil photo donné. Donc oui, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent, c'est j'ai un bon appareil photo et j'ai un bon filtre et ça va faire tout. Ça va tout faire.
Ouais. Ça marche. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour qui t'a fait prendre conscience de l'importance de tout ça ? Donc, j'imagine que oui, puisque du coup, tu t'es dirigée vers ce métier. Donc,
Oui, j'en ai plusieurs. Mais pour le coup, j'ai déjà une marque qui m'a contactée où elle n'avait ni le nom de sa marque, ni l'image de sa marque en tête et qui m'a contactée pour des photos. En mode, j'ai ce produit-là, je ne sais pas trop encore dans quel cadre je vais le vendre. Mais je veux des photos du produit. Et là, du coup, c'est un flou, mais total. Donc, soit en tant que photographe, je donne des conseils, mais là, c'est au-delà. Enfin, il faut une stratégie de marque autour, il faut une image de marque. Moi, c'est quelque chose que je peux faire, mais quand on me contacte en tant que photographe, c'est plus du tout le même métier. Et cette personne était étonnée au téléphone d'apprendre que il fallait travailler l'image de marque, son logo aussi en avant. En fait, elle avait rien. C'était je suis la première personne qu'elle a contactée pour travailler sur sa marque. Et ça me faisait plaisir à la fois parce que, pour le coup, elle avait envie de travailler avec moi, parce qu'elle aimait bien les photos et elle voulait mettre en avant ses produits avec mes photos. Mais elle n'avait rien d'autre autour. Mmh. Et du coup, je lui ai donné des conseils de professionnels à aller voir pour travailler et son identité visuelle, parce qu'elle n'avait pas d'identité visuelle. Elle n'avait pas de nom de marque. Je lui ai dit, réfléchissez à ça, 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 ça et ça. Et dans 3 mois, on se recontacte pour les photos de produits. Donc ça, ouais, j'avais un peu halluciné au téléphone. Je me dis, je suis la première personne qu'elle contacte, alors que je suis genre la dernière personne sur la liste normalement. Mais voilà, ça fait à la fois plaisir et en même temps, on se dit, les gens ne savent pas s'accompagner, s'entourer pour leur stratégie. Donc voilà, mais c'est vrai qu'avec le community management que j'ai l'habitude de faire, j'ai au moins ce côté où je peux recommander des choses. Après, le conseil, c'est pas gratuit non plus et c'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre. Mais voilà, je peux au moins leur donner des pistes pour que quand ils reviennent me voir, ils aient toutes les clés en main pour le coup. Mais oui, il y a quelques petites situations, des fois, où on se dit, c'est... OK.
Pour te rassurer, on a déjà eu les mêmes types de demandes pour les réseaux sociaux. Hein.
Ah oui.
Je veux être sur les réseaux sociaux, j'ai un produit, mais je n'ai pas encore d'entreprise créée, ni de nom, ni de logo.
Ah,
et dites-moi comment il faut que je fasse, quoi.
C'est marrant, ça, parce que d'habitude, on a plus l'habitude des clients qui arrivent et qui disent « je voudrais commencer la semaine prochaine ».
Oui, j'ai déjà tout, il manque ça, je vais commencer.
Ça, plutôt que l'inverse.
Ouais. Ça arrive encore un petit peu, moins maintenant, mais ça arrive encore.
Comme quoi, il y en a qui se posent la question en amont.
Oui, parce qu'ils ont compris l'importance, mais oui. Peut-être trop du coup.
C'est ça, ça marche. Eh bien, je crois que c'est le moment de la conclusion. Est-ce que tu pourrais conclure ce sujet, Marine, en 3 mots ou en 3 phrases, comme tu préfères ?
3 mots, parce qu'après sinon je vais trop digresser et tout ça. 3 mots, on va dire storytelling, parce que c'est important de créer une histoire autour de sa marque, et ça la photo le fait très bien. Brand content, donc création de contenu, qui est aujourd'hui le mot qu'on utilise pour tout ce qui est image autour des réseaux sociaux. Et un troisième, on va dire lifestyle, parce qu'aujourd'hui je pense que la photo sur les réseaux sociaux, il faut représenter un style de vie. En fait, il faut que les gens puissent s'imaginer exactement dans quelles conditions ils vont utiliser votre produit, à quel moment ils vont venir dans votre restaurant, et voilà. Ouais, ces 3 mots là, je pense que c'est le plus important. Ça résume bien aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux et l'importance de la création de contenu.
Super. Eh ben, merci beaucoup à toi.
Merci.
Merci d'être venue au micro du pod.
Merci à vous.
Merci Marine, c'était top. Super échange.
Et puis, je vous dis à bientôt du coup pour un prochain épisode du pod.
Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.